un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Le gouvernement espagnol met l'armée à la disposition des régions pour les aider à faire face à l'épidémie de Covid-19. Décision prise après une flambée de nouveaux cas la semaine dernière. Nous joindrons Marie-Hélène Ballestero à Madrid. En France, les PME fragilisées par la crise économique seront durablement soutenues par l'État, promet Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie annonce l'extension des délais de remboursement des actuels prêts garantis, mais aussi un nouveau système d'emprunt à long terme. Anne-Laure Jumet nous en dira plus. L'éradication de la poliomyélite en bonne voie. La maladie ne circule plus en Afrique. Aucun nouveau cas de polio n'est apparu au Nigeria, qui était l'épicentre de la maladie au début des années 2000. Nous y reviendrons avec Omar Waman. Au Soudan, des centaines de sites archéologiques sont menacés par des chercheurs d'or. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'accélère et les musées soudanais s'inquiètent. Explication de Benjamin Recouvreur. Face à la hausse préoccupante des contaminations au coronavirus, l'Espagne fait appel à l'armée. Le pays est encore loin de la situation de mi-mars, tient à préciser le Premier ministre Pedro Sanchez, mais le gouvernement veut absolument prévenir une seconde vague épidémique. Les régions qui manquent d'effectifs pour le traçage des cas vont donc pouvoir s'appuyer sur quelques 2000 militaires, Marie-Hélène Ballestero.
À ceux qui lui reprochaient ces dernières semaines d'être absent et même d'avoir pris des vacances, Pedro Sanchez a voulu leur montrer aujourd'hui qu'il est bien là, prêt à prendre des décisions fortes. L'exécutif central a donc décidé de mettre à disposition des régions 2000 militaires pour réaliser le traçage des nouveaux cas, un nombre qui pourrait d'ailleurs augmenter en cas de besoin. Mais pourquoi une telle mesure? Car depuis des semaines, la polémique n'a cessé d'enfler en Espagne au sujet du traçage. Certaines régions comme Madrid étant montrées du doigt à cause de leur nombre insuffisant de traceurs. Rappelons qu'en Espagne, les régions sont compétentes en matière de santé. Depuis la fin de l'état d'alerte, ce sont elles qui sont de nouveau en charge de la gestion pour faire face à l'épidémie du coronavirus. Mais face à la multiplication du nombre de cas en Espagne et aux nombreuses voix qui s'élevaient pour critiquer son absence, Pedro Sanchez a pris la parole à la mi-journée pour annoncer des mesures de co-gouvernance avec les régions. Il a appelé au calme tout en rappelant que les chiffres ne sont pas bons, que la courbe de l'épidémie est inquiétante et qu'ensemble, il faut l'arrêter. Il a proposé aussi aux différents présidents régionaux la possibilité de solliciter le déclenchement de l'état d'alerte dans leur territoire s'ils l'estiment nécessaire.
Marie-Hélène Ballestero à Madrid pour France Culture. Si les décès augmentent en Espagne, les dernières données hebdomadaires publiées par l'Organisation mondiale de la santé montrent un ralentissement de l'épidémie dans la plupart des régions du monde et en particulier sur le continent américain. En revanche, l'espoir d'être durablement immunisé quand on a déjà été malade faiblit. Ces dernières 24 heures, 3 cas confirmés de recontamination ont été signalés. L'un à Hong Kong, les deux autres en Europe, aux Pays-Bas et en Belgique. Ces personnes auraient peut-être été infectées par des souches différentes du virus. En France, la rentrée scolaire se prépare avec une certaine appréhension. Pour une rentrée sereine, le SNUIPP demande le renforcement du protocole sanitaire encadrant les conditions d'accueil des élèves. Le premier syndicat d'enseignants du primaire juge nécessaire une nouvelle modification du protocole. Il s'interroge notamment à Kim Kasmi sur la façon dont seront gérées les récréations et la cantine.
Oui, la circulation dans les lieux communs et le mélange des élèves, notamment pendant la récréation, la cantine ou encore les activités sportives telles que la piscine, sont un véritable casse-tête pour les directeurs d'école et les enseignants, car c'est là que les risques de contamination sont encore plus grands. Pour Guylaine David, la nouvelle porte-parole du SNUPP, principal syndicat du primaire, il est donc impératif d'éviter le brassage entre les élèves, ce que ne prévoit pas pour l'instant le protocole sanitaire du ministère de l'Éducation nationale.
Pour éviter d'avoir des contagions au sein même de l'école, il faut absolument que les groupes ne puissent pas se rencontrer et que l'on puisse, lorsqu'il y aura un cas de Covid dans une classe, pouvoir limiter l'école à cette classe, c'est-à-dire que fermer une classe et pas l'école en entier et qu'on soit sur des conditions qui permettent ça.
Autre inquiétude, le port du masque. S'il sera bien obligatoire à partir de 11 ans au collège et au lycée et à la charge des élèves, d'ailleurs certaines régions comme les Hauts-de-France par exemple, ou l'Île-de-France ont déjà prévu qu'ils offriraient le masque aux élèves, ce n'est pas encore le cas en maternelle où le port du masque ne sera pas obligatoire pour les adultes, ce que dénonce là aussi Guylaine David.
Pour le moment, il n'est seulement recommandé pour les enseignants de maternelle, il n'est pas obligatoire. On sait que dans les écoles maternelles, nous avons beaucoup de personnel et il faut absolument que ces enseignants, ces personnels puissent porter le masque pour que l'on évite aussi des contaminations entre adultes.
Enfin, ce qui concerne les personnels fragiles de l'éducation nationale, pour l'instant, le ministère a juste prévu de leur fournir des masques chirurgicaux de type FFP2 qui sont exactement les mêmes que ceux qu'ont les personnels médicaux. Jean-Michel Blanquer, qui doit organiser demain après-midi sa conférence de presse de rentrée, apportera peut-être plus de précisions issues du Conseil de défense qui se tenait aujourd'hui à l'Élysée.
Et à l'université, le Haut Conseil de la Santé publique recommande de porter systématiquement un masque en intérieur. Il est donc désormais conseillé dans les salles d'enseignement ou amphithéâtres, dans les espaces communs des bâtiments et lors de tout déplacement. Des masques qui ne seront pas gratuits pour tous. La ministre déléguée à l'industrie rappelle la mise en place cet été de la distribution de 50 millions de masques aux familles les plus vulnérables d'un point de vue financier. Agnès Pannier-Runacher souligne en revanche que l'on pourra acheter français. En décembre, la France pourra produire 100 millions de masques sanitaires par semaine, masques chirurgicaux et FFP2. Nous ne serons donc plus dépendants de la Chine. Le gouvernement a reporté à la semaine prochaine la présentation de son plan de relance, mais Bruno Le Maire a tout de même fait une annonce ce matin dans les Échos pour rassurer les entreprises. Dans le cadre des prêts garantis par l'État, le gouvernement a négocié avec les banques des taux attractifs, entre 1 et 3% pour les TPE et PME qui demanderont à étendre la durée de remboursement au-delà d'un an. Le ministre de l'Économie détaille également un système de prêts de long terme pour renforcer les fonds propres des entreprises trop endettées. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
Cette annonce faite à la veille de l'université d'été du MEDEF vient compléter l'arsenal déjà existant, fonds de solidarité ou encore report, voire annulation de charges, mais ça n'est pas sans risque.
Oui, parce que toutes ces dettes générées par ces prêts garantis par l'État peuvent être autant de bombes à retardement. Les niveaux d'endettement des entreprises françaises avaient déjà augmenté ces dernières années, alors qu'ils baissaient dans les autres pays de la zone euro. La Banque de France avait d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme et la crise du Covid n'a fait qu'accentuer cette situation. Fin juin, l'institution le soulignait d'ailleurs dans un rapport, l'augmentation de l'endettement des entreprises est susceptible de dégrader la solvabilité de nombre d'entre elles. Pour les intéressés, si ces prêts représentent une soupape bienvenue pour leur trésorerie, c'est aussi une charge pour l'avenir, ce que résume d'une formule le syndicat des indépendants. Le remboursement des murs de dette se fait par le remboursement d'autres dettes. Le risque, c'est en effet que ces prêts masquent un temps les difficultés de certaines entreprises, ces dernières n'ayant à terme pas les moyens de rembourser et se trouvant alors en cessation de paiement. À Bercy, on est bien conscient que nombre de petites entreprises ne rembourseront pas au bout d'un an ces prêts garantis par l'État, d'où la volonté d'encadrer les taux qui seront proposés par les banques au-delà de cette année pour leur permettre de supporter cette charge. La Banque publique d'investissement qui valide ces aides se dit, elle, optimiste sur la capacité des TPE-PME à rembourser, se basant sur l'expérience des prêts accordés en 2009 après la crise financière. Selon un dernier bilan, près de 550 000 prêts garantis par l'État ont été validés pour un montant total de près de 100 milliards d'euros.
Anne-Laure Jumet, on évoque maintenant une affaire mystérieuse. Depuis le début de l'année, une dizaine de chevaux ont été retrouvés, mutilés ou tués un peu partout en France. De nouveaux cas ont encore été signalés ces derniers jours en Mayenne et dans le Jura. Chaque fois, les équidés ont eu l'oreille droite tranchée et le museau sectionné. Pour l'heure, les enquêteurs n'ont pas de piste, mais la symbolique du cheval pourrait apporter un élément d'explication selon Nicolas Baron. Il est spécialiste de l'histoire des animaux à l'université de Brest.
Jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, le cheval était vraiment vu comme un prolétaire. C'était un animal qui travaillait pour l'homme. Et puis, au XXe siècle, on a eu finalement le moteur et d'autres engins qui ont remplacé le cheval, au point même que dans les années 60-70, il n'y avait plus vraiment d'utilité pour les chevaux, donc on voyait une baisse très sensible du nombre de chevaux en France. Et puis, depuis 30-40 ans, on a un retour du cheval, alors soit pour des raisons liées au loisir, soit parfois pour d'autres usages, pour le transport d'enfants, on a des choses un peu anecdotiques, comme ça, de ramassage d'enfants dans certaines villes. Et c'est, je pense, ce qui choque peut-être le plus dans ce qu'on voit aujourd'hui. Il serait, à mon avis, attaqué à des moutons. Ça n'aurait pas eu le même impact sur la société que le fait que ce soit des chevaux. Le cheval n'est pas n'importe quel animal. Au point même que le fait de manger de la viande de cheval aujourd'hui, ça horrifie à nouveau beaucoup de gens. Et si jamais, justement, c'est des mutilations qui seraient d'ordre symbolique, parce qu'apparemment, donc, il y a des mutilations qui touchent les oreilles, qui touchent les organes génitaux ou d'autres parties, est-ce que là, on n'aurait pas un lien, justement, à faire entre les mutilations qu'on voit actuellement, qui paraissent pour nous des mutilations gratuites et sadiques, et puis une espèce de sanction, un animal qui serait peut-être diabolisé par certains. Seule l'enquête permettra de nous le dire, mais il y a quand même des connexions peut-être à faire avec l'histoire ancienne de ce côté-là.
Nicolas Baron, au micro de Margot Siffert. En vue de l'élection présidentielle du 3 novembre, la famille Trump au grand complet se mobilise. Elle s'implique comme jamais cela ne s'est fait dans la convention républicaine. Aujourd'hui, c'est la première dame des États-Unis, Melania, qui apporte son soutien à son époux. Mais sur le fond, Grégory Phillips, quels sont les premiers messages, les arguments électoraux? Bref, quelle est la tonalité de cette convention?
Alors écoutez, le parti républicain avait promis une convention enthousiaste, optimiste, malgré l'épidémie de coronavirus et malgré le fait que cette convention soit quasiment à 100% virtuelle, et ce en opposition à celle du parti démocrate la semaine passée. Mais qu'a-t-on vu hier soir? Et bien surtout, la description d'un cauchemar américain si Joe Biden venait à l'emporter en novembre. Si les démocrates reviennent au pouvoir, ce sera l'insécurité dans les rues, la fin de la tranquillité pour les zones pavillonnaires, comprenez blanche, la fin du second amendement et du droit à être armé. Un jeune conservateur présente même Donald Trump comme le garde du corps, le bodyguard de la civilisation occidentale face au péril socialiste. Les seuls moments où finalement on est un peu sorti de ces ténèbres, ça a été les discours de Nikki Haley, l'ex-ambassadrice aux Nations Unies, dont on dit qu'elle pourrait être la candidate du parti en 2024, ou celui de Tim Scott, le seul sénateur noir au sein du parti républicain, rassembleur. Là, il y avait peut-être deux discours capables de parler au-delà de la base électorale des militants trumpistes. On verra ce soir, à l'occasion de cette deuxième soirée, de quel côté va pencher la balance. Est-ce que les discours miseront plus sur la peur ou sur l'espoir? Attendu parmi les orateurs ce soir, vous l'avez dit, la première dame Melania Trump, mais aussi le secrétaire d'État Mike Pompeo.
Grégory Phillips en direct de Washington. Aux États-Unis, les tensions restent fortes après l'arrestation dimanche d'un Afro-Américain à Kenosha, dans l'État du Wisconsin. Deux policiers blancs lui ont tiré dans le dos à 7 reprises alors qu'il tentait de remonter dans sa voiture. La ville a connu 2 nuits d'émeutes. Jacob Blake est toujours hospitalisé. Selon sa famille, il serait paralysé. L'affaire rappelle bien sûr la mort de George Floyd il y a 3 mois. Il avait été tué par un policier blanc. L'affaire fait réagir le basketteur LeBron James, la star des Lakers de Los Angeles.
En tant que père de 2 garçons et en tant qu'Afro-Américain, voir ce qui continue de se passer avec ces brutalités policières envers les gens comme moi et voir cette injustice sociale, c'est tout simplement déconcertant, très troublant. Vous savez, nous jouons à un sport magnifique et qui rassemble tant de familles. Les gens devraient pouvoir se réjouir et en profiter, mais en même temps, on ne peut pas perdre de vue ce qui se passe réellement dans notre monde, et en particulier ici en Amérique. Je prie pour cette famille, j'espère qu'il y aura un changement, et ça peut commencer avec l'élection du mois de novembre.
Mike Pompeo poursuit sa tournée au Moyen-Orient dans l'espoir de convaincre des pays arabes de normaliser leurs relations avec Israël, pour l'instant sans succès. Le Soudan, où se trouve aujourd'hui le chef de la diplomatie américaine, écarte toute reconnaissance d'Israël avant des élections en 2022. Le Soudan, où des sites archéologiques sont pillés par les chercheurs d'or. Sur le millier de sites archéologiques connus dans le pays, une centaine auraient été détruits ou endommagés. Les chercheurs d'or existent depuis longtemps, mais ils se sont petit à petit professionnalisés, et certains n'hésitent pas à recourir à des pelleteuses pour creuser le sol, causant des dommages irrémédiables au site. Dans ce pays en transition politique depuis le départ du dictateur Omar el-Béchir, les moyens pour protéger ce patrimoine archéologique exceptionnel sont dérisoires, Benjamin Recouvreur.
Les sites archéologiques intéressent les chercheurs d'or car ils sont pleins de métaux. On y trouve du fer, du bronze, notamment dans les sépultures, mais rarement de l'or. Les gains sont donc dérisoires par rapport aux destructions, la plupart du temps irrémédiables. Claude Rilly est chercheur au CNRS. Il dirige la fouille de Sédéinga au nord du Soudan.
Un des problèmes des chercheurs d'or, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas du cru. Par exemple, au Djebel Dosha, qui est un temple rupestre égyptien, il y avait une très belle stèle rupestre du pharaon Séti Ier. Des chercheurs d'or ont pensé que c'était la porte du trésor et à coup de pioche, ils ont démoli la stèle. C'est un nombre d'informations parfois capitales qui sont perdues.
À quelques kilomètres sur le site de l'île de Saï sur le Nil, de nombreuses tombes ont été endommagées. Avec un policier pour 30 sites, la voie est souvent libre pour les pilleurs. Vincent Francini dirige cette fouille.
Ce qu'on peut faire, c'est de sensibiliser les communautés locales au fait qu'il faut protéger ce patrimoine et le mettre en valeur plutôt que d'en tirer profit à très court terme avec le pillage.
Sensibiliser les populations et aider les autorités du Soudan à protéger son patrimoine dans un contexte politique particulier, c'est ce que pense Marc Maillot, directeur de la section française de la Direction des Antiquités du Soudan, joint au téléphone à Khartoum.
On ne peut pas demander à un conseil de transition de gérer l'intégralité des problèmes d'un coup. à mesure que l'on attend parce que d'autres priorités se font jour, le patrimoine, lui, continue d'être détruit.
L'activité des chercheurs d'or est loin d'être le seul danger pour le patrimoine soudanais. L'expansion très importante des surfaces agricoles détruit aussi des sites archéologiques.
La polio ne menace plus les enfants d'Afrique. Cette maladie infectieuse aiguë qui touche principalement les enfants et peut provoquer une paralysie irréversible. Grâce à l'amélioration de l'hygiène, mais surtout grâce à la vaccination, aucun cas n'a été recensé sur le continent africain depuis 4 ans. Le dernier pays concerné était le Nigeria, où le conflit contre Boko Haram empêchait certaines campagnes de vaccination. L'Organisation mondiale de la santé confirme donc officiellement aujourd'hui que la poliomyélite est éradiquée en Afrique, et c'est le fruit d'une forte mobilisation au Marwaman.
Oui, c'est une nouvelle historique car c'est tout le continent africain qui est déclaré exempt de poliovirus sauvage. La maladie qui touche principalement les enfants en attaquant la moelle épinière à l'origine de paralysie irréversible a été éradiquée dans les années 50 dans les pays riches après la découverte d'un vaccin et subsistait en Afrique. Elle a été annihilée après un énorme travail de sensibilisation des pouvoirs publics mais aussi des chefs de tribus et religieux, comme au Nigeria, épicentre de la maladie. Dans ce pays où le virus perdurait encore, la lutte contre la polio a été mise à mal en raison de nombreuses rumeurs, comme celle qui a circulé au début des années 2000 dans le Nord, selon laquelle le vaccin avait pour but de stériliser les musulmans. Il y a eu ensuite l'émergence de Boko Haram, le groupe terroriste dont les violences ont entravé l'action des autorités locales, épaulées par les agences humanitaires. Il a fallu mener des campagnes de vaccination sous la protection de l'armée et des milices d'autodéfense. Une victoire totale contre la polio qui n'aurait jamais été possible sans le soutien de la population, véritable sentinelle et lanceur d'alerte. D'après l'OMS, près de 30 000 enfants vivent encore dans des zones difficilement accessibles, un chiffre jugé trop faible pour assurer une transmission épidémique.
Aujourd'hui, seuls deux pays, l'Afghanistan et le Pakistan, donc, comptent encore des contaminations par le poliovirus sauvage. Autre bonne nouvelle, la fin de l'épidémie de rougeole qui sévissait en République démocratique du Congo. En 2 ans, elle a emporté plus de 7000 enfants de moins de 5 ans en RDC. L'affaire de l'empoisonnement de l'opposant russe Alexei Navalny a viré au contentieux diplomatique entre les Occidentaux et Moscou, appelé à diligenter rapidement une enquête transparente. Mais cette pression n'a eu pour l'instant aucun effet sur le Kremlin et le pouvoir russe continue à rejeter la thèse de l'empoisonnement contre son opposant numéro 1, Claude Bruyot.
Une même analyse médicale met des conclusions différentes. Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Pieskov, n'a pas eu besoin de s'étendre beaucoup pour expliquer comment et pourquoi il n'y aura pas d'enquête à ce stade concernant ce que le pouvoir russe, retranché derrière les médecins de Omsk, refusera toujours de considérer comme un empoisonnement. La rhétorique relative à une investigation qui deviendrait nécessaire aux yeux du Kremlin si un produit était détecté relève des précautions diplomatiques d'usage et afin de pousser plus loin encore, le caractère inattaquable des efforts fournis côté russe pour sauver la vie d'Alexei Navalny, le porte-parole de Vladimir Poutine relève même que l'opposant numéro 1 en Russie a été soigné lui aussi en Sibérie occidentale avec de l'atropine, le même remède que celui communiqué par les médecins allemands, oubliant de préciser que l'atropine fait partie de la panoplie militaire en tant qu'antidote au gaz neurotoxique de combat.
Claude Bruyot, à Moscou, des élus du Parlement européen ont échangé en visioconférence avec la figure de proue de l'opposition biélorusse, Svetlana Tikhanovskaya. L'opposante à Alexandre Loukachenko affirme qu'une révolution pacifique est en cours dans son pays, malgré la répression des autorités. On retrouve Johanna Hochstein à Bruxelles.
Dans un anglais quasi parfait, le visage fermé, Svetlana Tikhanovskaya lit son message adressé aux parlementaires européens. « Nous avons organisé dimanche la plus grande manifestation de l'histoire du pays. Nous ne sommes plus l'opposition, mais nous sommes désormais la majorité. Une révolution pacifique et non géopolitique est en cours », insiste-t-elle.
It is neither a pro-Russian.
Il ne s'agit ni d'une révolution pro-russe ni anti-russe. Il ne s'agit pas non plus d'une révolution anti-européenne ou pro-européenne. C'est une révolution démocratique.
Dans une allocution qui a duré moins de 10 minutes, la figure de l'opposition biélorusse s'est dite prête à négocier avec les autorités de son pays et à considérer la médiation d'organisations internationales. Un discours salué par les eurodéputés qui ont souligné le courage et la détermination de l'opposante. Attention à ne pas faire preuve de naïveté, insistent plusieurs parlementaires. Quant au rôle de la Russie dans la crise, Moscou, disent-ils, a déjà la main mise sur les forces spéciales biélorusses, sur la télévision d'État. Bernard Guetta, du groupe Renew, demande au chef du Kremlin de revenir à la raison.
Vous voulez peser, monsieur Poutine, et voulez que la Russie pèse dans le monde? Eh bien, nous vous le disons. Défendez en Biélorussie le droit, et vous défendrez alors les intérêts de la Russie, son image et son prestige, au lieu de si constamment les saper.
Des députés qui exhortent Minsk à libérer immédiatement les prisonniers politiques.
La météo, demain le ciel sera souvent voilé, mais dans le sud le soleil l'emportera en fin d'après-midi. Quelques averses sont possibles dans le nord et sur les côtes de la Manche. Le matin il fera de 14 à 23 degrés, l'après-midi de 19 à 28 sur la moitié nord, de 28 à 35 sur le sud. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.